Vous écoutez On lit pour vous.
Un programme de résidence permanente bouée de sauvetage qui aide très peu d'Ukrainiens. Un texte de Lise Marie Gervais paru le 5 avril 2024 dans Le Devoir. Le programme permettant aux Ukrainiens d'obtenir la résidence permanente s'ils ont un membre de leur famille au Canada n'a pas le succès escompté. Près de 6 mois après son lancement, à peine 2000 personnes ont soumis leur candidature, alors qu'ils sont près de 300 000 à se trouver au pays avec un statut temporaire. Ouvert le 23 octobre 2023 pour une durée d'un an, ce programme fédéral qualifié de « bouée de sauvetage » par le ministre de l'Immigration de l'époque, Sean Fraser, avait suscité l'espoir, mais laissé perplexe tous ceux n'ayant pas de famille ici. Très peu de gens vont pouvoir avoir leur résidence permanente en vertu de ce programme, a affirmé Randall Baron Chong, directeur général de Pathfinders for Ukraine. Selon son organisme, qui a sondé l'été dernier près de 36 000 détenteurs de l'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine, AVUCU, à peine 7 % des répondants s'estimaient admissibles à ce programme de réunification familiale élargie. Et si on regarde ceux qui ont le plus besoin d'aide, ce ne sont pas nécessairement des gens qui ont de la famille ici, a-t-il fait valoir. Présenté il y a tout juste un mois par le député libéral ontarien Ali Essassi, une pétition demande à Justin Trudeau d'offrir aux ressortissants ukrainiens une voie simplifiée vers la résidence permanente qui s'adresserait à ceux qui ne bénéficient pas du parcours de regroupement familial annoncé le 23 octobre 2023. Arrivée avec son mari et ses 3 enfants en mai 2022, Elena Lobiak n'a aucune famille ici. « J'avais rencontré sur Facebook un homme de Québec et il m'a convaincue de venir, qu'on serait en sécurité », a-t-elle raconté. Le Canada est très loin de l'Europe, mais c'est ce qu'on voulait. De toute façon, je n'ai pas de parents en Ukraine et les parents de mon mari ne veulent pas quitter leur maison. Arrivée au Québec au même moment, Tatiana Bachenko, son mari et l'un de ses 2 fils, l'aîné termine ses études en Pologne, n'ont pas non plus de famille au Canada. Depuis le Donbass, région gravement touchée par le conflit, ils ont choisi d'aller à Gatineau pour y retrouver de vieux amis qu'ils connaissaient depuis 20 ans. Nous n'avons pas étudié les programmes d'immigration. Nous voulions simplement nous éloigner le plus possible de la guerre et nous envoler vers un endroit où nous aurions des amis et du soutien, explique-t-elle par écrit au Devoir. Aucune voie facile. Comme les permis de travail ouverts que leur confère l'AVUCU viennent à échéance en avril 2025, les 2 femmes qui souhaitent refaire leur vie ici sont inquiètes. Le permis de Tatiana Bachenko est valide jusqu'en avril 2025. En février 2024, j'ai déposé une demande de prolongation, mais aucune décision n'a encore été prise, dit-elle. D'après la consultante en immigration Marina Negrivoda, si on n'a pas de parenté au Canada, plusieurs chemins mènent à la résidence permanente, mais aucun d'entre eux n'est facile. On me demande souvent quelle est la province ou le programme qui permet d'avoir facilement et rapidement la résidence. Certains sont prêts à aller n'importe où, relève-t-elle. Moi, je ne vais pas conseiller aux gens de changer de province. Il faut analyser leur profil. Elle dit avoir eu des clients qui avaient des difficultés en français et qui ont pris la décision d'aller au Nouveau-Brunswick. Là-bas, l'anglais est accepté et il n'est pas nécessaire d'avoir un travail qualifié. Ailleurs, au Canada, des voies économiques vers la résidence permanente comportent moins d'exigences, notamment sur le plan linguistique. Car le principal défi pour les Ukrainiens qui veulent rester au Québec, c'est la langue, avance-t-elle. Certains pensent que suivre des cours de francisation les rendra admissibles à la résidence permanente, mais ce n'est pas suffisant. Pour être admissible au volet travailleur du programme de l'expérience québécoise, par exemple, il faut avoir occupé pendant 24 mois un emploi qualifié, en plus de réussir le niveau 7, B2. Le programme régulier des travailleurs qualifiés, dont une réforme a récemment été annoncée, exige désormais un certain niveau de français et il n'est pas ouvert à toutes les professions. Incertitude. Après un an et demi de francisation, Tatiana Bachenko a terminé le niveau 7 en français et vient de commencer un cours de secrétariat. Mais elle n'a pas occupé d'emploi qualifié, pas plus que son mari, qui travaille dans la construction et comme livreur de pizza les fins de semaine. « Mon mari a un travail, mais pas de français. Et moi, j'ai un peu de français, mais pas de travail », résume-t-elle. Dans ces conditions, il est difficile pour le moment de se qualifier pour un quelconque programme de résidence permanente pour rester au Québec. Pourtant, son rêve est de vivre ici, où les gens sont merveilleux et la nature magnifique. Son fils cadet, qui parle parfaitement français et qui possède tout un réseau d'amis, est troublé à l'idée de peut-être devoir partir, dit Mme Bachenko. Nous n'avons nulle part où retourner en Ukraine. Elena Lobiak se demande aussi comment elle pourra obtenir un statut permanent. Après avoir suivi des cours de francisation à temps complet et obtenu un niveau 4, celle qui était enseignante en Ukraine travaille maintenant dans une garderie. « Je ne peux pas accéder à la résidence permanente ici parce que je n'ai pas encore assez d'expérience dans ce travail qualifié », déplore-t-elle. « J'espère que mon permis de travail va être prolongé. Comme ça, je pourrai améliorer encore mon français. » « Je ne vois pas de fin à cette guerre, donc j'ai besoin de savoir ce qui va arriver avec nous », conclut-elle. C'était un programme de résidence permanente boué de sauvetage qui aide très peu d'Ukrainiens. Un texte de Lise Marie Gervais paru le 5 avril 2024 dans Le Devoir.
Qu'est-ce qu'un déficit? Et comment le finance-t-on? Un texte de Hugo Jonca, paru le 6 avril 2024, dans La Presse. Question d'un lecteur, Pascal Turcotte. Je suis enseignant en histoire en 4e et 5e secondaire. J'ai une question pour vous que j'ai souvent eue de la part de mes élèves et à laquelle j'ai toujours eu de la difficulté à répondre. Lorsqu'un pays, une province ou une ville a un déficit, on doit emprunter pour équilibrer le budget. À qui doit-on cet argent? Et comment le remboursement et l'emprunt fonctionnent-ils? La question de M. Turcotte et de ses élèves, c'est un peu trois questions en fait, une sur la nature des déficits, l'autre sur leurs conséquences sur la dette publique, puis une dernière sur les emprunts de l'État. D'abord, M. Turcotte mentionne une ville dans sa question. En fait, au Québec, la loi interdit aux municipalités de faire des déficits, contrairement au gouvernement supérieur. Mais qu'est-ce qu'un déficit au juste? En finances publiques, on fait habituellement référence au déficit budgétaire de l'État. Sa définition est assez simple. Il se produit lorsque les dépenses excèdent les revenus. Autrement dit, le gouvernement a dû verser plus d'argent pour ses dépenses courantes, ses investissements, ses paiements sur la dette, qu'il n'en a recueilli grâce aux impôts, taxes et transferts intergouvernementaux. Cet écart avec l'équilibre budgétaire force le gouvernement à emprunter davantage que prévu. Le déficit s'en va automatiquement sur la dette, explique Luc Godbout, professeur en finances publiques à l'Université de Sherbrooke. Qui prête les fonds? Difficile à dire. Concrètement, l'État s'endette surtout en émettant des obligations sur les marchés publics, comme des actions d'entreprises cotées en bourse. les titres de dette du Canada, du Québec ou des autres provinces peuvent aller aux grandes banques du monde entier, mais aussi à monsieur et à madame tout le monde. Les monnaies utilisées pour emprunter donnent toutefois des indices. Selon le dernier budget, plus des trois quarts de la dette ont été négociés en dollars canadiens. La devise américaine et l'euro comptent tous les deux pour 10%. Des instruments financiers convertissent toutefois tous ces emprunts en monnaie canadienne pour neutraliser les fluctuations des taux de change. Comment rembourse-t-on? En payant les détenteurs de ces obligations, tout simplement. En 2023-2024, le terme moyen des nouveaux titres de dette que Québec a émis était de 14 ans. L'État doit ensuite se refinancer avec d'autres emprunts, à moins qu'il ne soit au bord de la faillite, comme la Grèce en 2008. Pour éviter de voir le pays sombrer et convaincre les banques de le financer, les pays de l'Union européenne ont dû s'en mêler et déployer un plan de sauvetage. Est-ce grave, docteur? Bien sûr, la réponse à cette question varie selon la position qu'on occupe sur le spectre idéologique. En général, la droite est allergique au déficit et la gauche s'en accommode mieux à condition qu'ils servent à combattre les inégalités et à financer les services et les investissements publics. Chose certaine, ils ne sont donc pas sans conséquences. Un déficit force le gouvernement à financer un plus gros montant et il y a des intérêts rattachés à ça. Ça peut nous coûter plus cher si les taux d'intérêt montent ou si les agences de notation perdent un peu confiance en notre capacité d'emprunt, nous dit Luc Godbout, professeur en finances publiques à l'Université de Sherbrooke. Ces agences, les Moody's et DBRS de ce monde, évaluent les titres de dette. Elles ont un impact direct sur les taux d'intérêt que paie un gouvernement. Si elle juge que sa dette est moins sûre, il paiera automatiquement des taux plus élevés. Conjoncturel ou structurel, le déficit? En fait, l'impact du déficit dépend surtout de ses causes, dit Luc Godbout. S'il est conjoncturel, il survient à cause d'événements ponctuels dans la vie économique, sociale ou politique du pays. Il devrait alors disparaître ou diminuer par lui-même quand les choses iront mieux. Meilleur exemple récent, le bond colossal du déficit fédéral à 328 milliards, enregistré en pleine pandémie en 2020-2021. Ça aurait été idiot de vouloir équilibrer le budget parce qu'on aurait amplifié le cycle économique, dit Luc Godbout. Au lieu d'aider les Canadiens à traverser la crise, le gouvernement Trudeau aurait provoqué un épouvantable marasme s'il avait voulu à tout prix éviter un déficit. Une fois la pandémie derrière nous, le déficit a baissé à seulement 35 milliards en 2022-2023. Par contre, si le déficit est structurel, on considère que même si l'économie tourne à plein régime, le trou subsistera dans les comptes publics. Si l'État souhaite rééquilibrer le budget, il doit alors diminuer les dépenses ou augmenter ses revenus. Le 12 mars 2024, Québec a annoncé un déficit de 11 milliards. Dans son discours, le ministre des Finances, Éric Girard, a reconnu qu'une grande partie de cet écart avec l'équilibre budgétaire tient justement à un problème structurel. Il ne peut pas compter sur la croissance économique pour le combler. Il estime qu'en 2026-2027, ce déficit structurel sera de 4 milliards. Le gouvernement Legault dit vouloir l'éponger d'ici 2029-2030, s'il est toujours au pouvoir. C'était « Qu'est-ce qu'un déficit et comment le finance-t-on ?» un texte de Hugo Jonca, paru le 6 avril 2024 dans la presse.
Prendre le temps. Un texte de Brigitte Deschênes et Chantal Tremblay, paru le 26 mars 2024 dans Le Devoir. Qui est le mieux placé pour savoir que la mort bouleverse et chamboule tous les êtres? Qui? Tout le monde y fait pourtant face un jour ou l'autre. Et les réactions sont variées quand la fatalité frappe. Celui-là, comme le saule, reste inconsolable. Celle-là demeure stoïque. Plusieurs se sentent perdus. Quelques-unes deviennent amères. D'autres encore n'arrivent pas à y croire. Toutes ces réactions sont légitimes. Les professionnels en rituels funéraires, PRF, interviennent à un bien mauvais moment dans la vie des gens. Leur rôle véritable est bien plus noble que ce que l'on pense. Ils sont là pour accueillir, pour écouter, pour consoler, pour servir, pour aiguiller, pour aider les familles à traverser cette épreuve dans le respect et la dignité. Les PRF sont là aussi pour remettre en question ce que, collectivement, nous voulons faire de nos morts. Parce que, de plus en plus, les rituels sont bâclés par manque de temps ou de considération pour nos morts ou pour ce qu'ils ont été de leur vivant. De plus en plus fréquemment, les gens signent des contrats de préarrangement dans lesquels ils promettent qu'ils ne veulent rien. Pas d'embaumement, pas d'exposition, pas de funérailles, rien. Et ce, sans aucune considération pour les proches. La peur de déranger, la peur de représenter un fardeau et, ou, l'isolement social sont souvent des facteurs qui influencent les personnes âgées lors de leur choix de préarrangement. Nous avons le devoir, en tant que PRF, de bien conseiller les personnes avant qu'elles choisissent leur rituel, car ceux-ci auront une incidence considérable sur la suite des choses. Dans une collectivité qui veut préserver sa santé mentale et en prendre bien soin, on pourrait commencer par prendre le temps de pleurer nos morts. C'était « Prendre le temps », un texte de Brigitte Deschênes et Chantal Tremblay, paru le 26 mars 2024 dans Le Devoir.
Comment choisir le bon matelas? Un texte d'Anne-Christine Schneider, paru dans le magazine Bel Âge. Le choix d'un matelas n'est pas à prendre à la légère. Cet investissement important durera au moins 10 ans et nous servira environ un tiers de chaque jour de notre vie. L'impact de nos nuits sur nos journées et notre santé est si grand qu'il ne faut pas tarder avant de changer de matelas, surtout s'il est inconfortable. Les spécialistes recommandent de le remplacer tous les 10 ans parce qu'il se dégrade au fil du temps, que notre corps se modifie, mais aussi pour des raisons d'hygiène, on sue environ 0,5 litre par nuit. Cependant, la dépense étant conséquente, quelques vérifications sont de mise avant d'arrêter son choix. Je vérifie ma posture. Si on a mal au dos, au lever et que la douleur s'estompe en cours de journée, quelque chose cloche pendant notre sommeil. Toutefois, ce n'est peut-être pas le matelas qui est en cause, mais plutôt notre posture, remarque Jean-François Durand-Loup, physiothérapeute diplômé en ostéopathie. Celle-ci devrait être la plus symétrique et la moins en torsion possible pour éviter que la colonne vertébrale ne subisse un stress mécanique trop important. Mieux vaut éviter de dormir sur le ventre, par exemple. En principe, les disques de notre colonne se réparent pendant qu'on dort et qu'on n'est pas sous l'effet de la gravité, car ils sont hydrophiles et accumulent de l'eau. S'ils subissent une compression à cause de la torsion de la colonne, ils ne pourront pas récupérer leur contenu en eau durant la nuit. avec une sensation de douleur à la clé. Si l'on modifie notre posture et que les maux disparaissent, inutile de remplacer notre matelas. Par contre, si on change de posture et que la douleur demeure, ou que l'on dort comme un loir et qu'on n'a aucun inconfort quand on passe nos nuits ailleurs, notre matelas est sans doute inadéquat. Jean-François Durand-Lau préconise alors de l'inspecter sans drap, pour voir s'il creuse. On vérifie aussi l'alignement de notre colonne. Couché sur le côté, dos nu, on demande à quelqu'un de passer un ruban à mesurer rigide de la tête jusqu'aux plis interfessiers et de prendre une photo. Si le ruban est droit et que la colonne vertébrale fait une scoliose en C, c'est que le matelas est trop mou et ou qu'il creuse. Si la scoliose est en S, le matelas est trop ferme. Je choisis ma sorte. De nos jours, la technologie de fabrication de tous les types de matelas, à ressort, en mousse synthétique ou en latex, a tellement évolué entre le soutien, la respirabilité, les systèmes de gel pour réguler la température et les différents degrés de fermeté offerts par les plateaux d'accueil, que le choix devient vraiment une question de préférence personnelle. Cependant, de manière générale, les gens ont tendance à prendre un lit trop ferme, affirme Lydia Martin, vendeuse chez Dormez-vous, car ils confondent soutien et fermeté. Un matelas doit offrir un bon soutien, mais à être quand même souple pour combler nos cambrures et éviter les points de pression. À ressort. Il compte plus ou moins de ressorts, en général entre 800 et 1200, en fonction du nombre de dormeurs et de leur poids, en sachet ou pas, répartis en différentes zones de confort. Les atouts, abordable, bon soutien lombaire, gamme de fermeté et de confort selon le plateau d'accueil choisi. Les bémols, on ressent davantage des mouvements du partenaire. Lourd, difficile à manipuler. En latex, composé de différentes plaques de latex, matière d'origine végétale, plus ou moins dense, ils ne contiennent pas de produits chimiques de synthèse. Les atouts, aussi moelleux que fermes, s'adaptent à chacun, durables, ne retiennent pas la chaleur. Les bémols, chers, lourds, difficiles à manier. En mousse synthétique, composé de différentes couches de mousse plus ou moins denses, il en existe plusieurs sortes, dont ceux à mémoire de forme. Les atouts. Diminution des points de pression. On ne ressent presque pas les mouvements du partenaire. Confortable. Léger. Facile à manipuler. La mémoire de forme ferait en sorte qu'on bouge moins, que le sommeil est plus réparateur. Les bémols. Ceux à mémoire de forme réagissent à la température ambiante et corporelle. Ils peuvent donc être très chauds l'été, sans climatisation, ou si on a des bouffées de chaleur, ou très durs et longs à s'adapter à notre corps si la pièce est froide. Inconfortable si l'on bouge beaucoup. Il faut aimer la sensation de caler dans son lit. Je magasine bien. Les conseils de Lydia Martin pour éviter les déceptions. Écoutez les recommandations du vendeur qui prend en compte votre morphologie, poids, taille, votre position favorite pour dormir, vos préférences, si l'on dort seul ou à deux, etc. Mentionnez toute inquiétude ou problème de santé. Essayez le matelas en magasin pendant 5 à 10 minutes dans des vêtements amples et dans différentes positions. Vérifiez que la colonne vertébrale soit bien alignée. Si vous dormez en couple, magasinez avec votre partenaire. Privilégiez deux matelas simples. Avec un bon cadre, ils resteront collés ensemble. Si vos morphologies et vos goûts sont diamétralement opposés. Informez-vous sur la durabilité, les garanties. Vérifiez quel type de sommier répond aux prérequis et les politiques d'échange et de confort. C'est dans la boîte. Les matelas en mousse compactés et livrés directement chez nous dans une boîte fort pratique quand on ne peut se déplacer sont la grosse tendance de l'heure. L'entreprise Casper, chef de file en la matière, a même vu son matelas éponyme désigné l'une des meilleures inventions par le magazine Time. Ces trois modèles différents se veulent universellement confortables, peu importe notre morphologie, selon Nicole Tapscott, directrice générale de la marque pour le Canada. Ils offrent en plus un soutien ciblé et empêchent d'avoir trop chaud ou trop froid grâce aux matériaux très respirants utilisés. Vous aviez envie de tester cette nouvelle façon d'acheter un matelas, mais vous hésitez? Une période de 100 nuits d'essai permet de le retourner en cas d'insatisfaction. C'était « Comment choisir le bon matelas ?» un texte d'Anne-Christine Schneider paru dans le magazine Bel Âge.
Benoît Pelletier et les Inuits. Un texte de Louis Bernard paru le 5 avril 2024 dans Le Devoir. Les chefs de trois communautés Inuits viennent de rendre publique une lettre qu'ils ont adressée au premier ministre Legault, lui reprochant de laisser traîner depuis un an la signature du traité Petapan, dont l'entente de principe avait été signée en 2001 par le ministre Benoît Pelletier, à titre de ministre responsable, au nom du gouvernement du Québec. Récemment décédé, M. Pelletier, juriste éminent, qui avait étudié en profondeur l'entente de principe, doit certainement être déçu de cette attitude de rétrograde. D'autant plus que le ministre fédéral, lui, a déjà accepté le projet de traité depuis le 31 mars de l'an dernier. Selon les chefs, le Québec remet même en cause certains éléments clés de l'entente de principe déjà acceptée. Et cela est carrément incompréhensible compte tenu de la réputation d'ouverture aux Autochtones que le Québec s'était acquise depuis le leadership manifesté par M. René Lévesque au siècle dernier. Le Québec doit faire le nécessaire pour finaliser les négociations sans autre délai. Il est temps que le premier ministre Legault, qui refuse même de rencontrer les chefs, prenne ses responsabilités et ramène à l'ordre ses fonctionnaires récalcitrants. C'était Benoît Pelletier et les Inuits. Un texte de Louis Bernard, paru le 5 avril 2024 dans Le Devoir.